Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
C'est rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
La plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du jeudi. Nous étions absentés, nous revoilà pour une émission un peu courte, mais nous voilà quand même. Nous allons parler avec Laurent de Macron, puisque vous l'avez su, Monsieur Macron, s'il vous plaît, était à Lyon avec quelques amis. Vous avez peut-être été gêné dans vos déplacements, mais c'est pour la bonne cause, paraît-il. Nous parlerons d'autres sujets, nous parlerons des AESH, encore un acronyme à la française. Nous parlerons d'un cartel des tickets resto. Nous parlerons peut-être de Michelin. Nous parlerons surtout du cannabis thérapeutique.
Et puis, surtout, oui.
Si, parce que c'est un sujet important, qui est traité par d'autres gens, mais je trouve que c'est toujours un sujet assez important. On parlera peut-être de Hong Kong et de, voilà, un petit peu de données suite de ce qui peut s'y passer, du capitalisme par là-bas. Et nous parlerons du nucléaire. Il paraît qu'il y a des coups qui explosent dans le nucléaire, tout ça. Et puis, il y a les Kurdes aussi.
Ouais, alors on n'aura pas le temps de tout faire, tout ça, j'imagine, puisque l'émission est un peu écourtée. Donc hier soir, le centre-ville de Lyon était très perturbé et en partie interdit aux habitants et aux habitantes. Vous avez pu remarquer que la venue du monarque Macron laissait un petit peu des traces et emmerdait pas mal la population. Il est venu pour une conférence réunion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et les conséquences n'ont pas toujours été très drôles pour les populations au niveau des transport en commun, bien évidemment, c'est ce qui a le plus morflé a priori. On a découvert aussi que la préfecture reprenait des libertés, avec nos libertés, en dirons-nous, puisque la préfecture avait annoncé une zone avec interdiction de garer des véhicules. Donc là, les gens avaient pris, on espère, leur précaution pour pas laisser leur engin motorisé à quatre roues à des endroits où il fallait pas. Et puis, bizarrement, sans prévenir personne, la préfecture a décidé d'enlever tous les vélos de cette zone. Donc ils sont allés avec des gros coupe-boulons et ils ont coupé tous les antivols des vélos et ils ont embarqué tous les vélos. Alors on se demande s'ils ont peur qu'il y ait un premier attentat piégé à l'aide d'un vélo, ce qui n'est pas encore arrivé. On n'a pas vraiment d'idée. En tout cas, ce vol organisé par la préfecture laisse les cyclistes dans la merde, puisque on leur souhaite bien du courage pour essayer de récupérer un vélo, puisque un vélo n'est un vélo sauf s'il est marqué, sinon il n'est pas identifié, et ça complexifie beaucoup les choses. Donc voilà. Voilà, la préfecture n'en a vraisemblablement rien à foutre des habitants et des habitantes qui se déplacent à vélo. En tout cas, Macron en a profité pour se balader dans les rues vidées de ses habitants et ses habitantes avec son ami Gérard Collomb et bien évidemment accompagné du chanteur de U2, Bono, le millionnaire faire-valoir du capitalisme et imbécile notoire, dirons-nous. Voilà, donc hier soir, donc il a adoubé quasi officiellement Gérard Collomb comme étant le candidat de la République En Marche pour la ville de Lyon, enfin pour la métropole de Lyon, puisque je crois qu'il se présente pour la métropole de Lyon, notre ami Gérard Collomb. Donc voilà, ce jeudi midi, alors il y a eu d'autres choses ce matin, la FNSEA, FDSEA ont essayé de faire un coup vers la PREF, là où dormait Macron, ils n'ont pas réussi bien évidemment. À midi, une petite manif avec une centaine de personnes qui est parti de l'université Lyon 2 et qui s'est retrouvé sur les quais du Rhône après, opposants au régime camerounais. On va dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Ça vient faire là que le dictateur en chef du Cameroun, Paul Biya, 86 ans, 37 ans de dictature au pouvoir, était à Lyon, est toujours à Lyon d'ailleurs, dans le cadre de cette conférence pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et qu'il allait rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui ou ce soir, on ne sait pas quand. Donc Emmanuel Macron qui va rencontrer donc ce dictateur afin d'évoquer entre autres la situation politique du pays. On rappelle que il y a une grosse crise au Cameroun le dictateur instrumentalise les anglophones contre les francophones et les francophones contre les anglophones. Il se sert de tout ça. Même s'il a fait, il y a eu une espèce de conciliation qui s'appelle d'ailleurs, les Camerounais ont beaucoup d'humour, ils ont appelé ça le dialogue, du nom de Paul Biya et de dialogue, voilà, le dialogue. Donc 102 opposants ont été libérés, notamment le principal adversaire politique Maurice Kanto, mais c'est juste un cas, voilà, un faire-valoir. Il n'y a pas que ces gens-là qui étaient en prison, il y a bien d'autres prisonniers politiques dans cette dictature. Dictature qui est adoubée par la France. Et Macron, quand il décide de rencontrer Paul Biya, quelque part, il permet la reconnaissance internationale de ce régime dictatorial par la communauté internationale. Alors c'est pas le premier président français. Macron, il est héritier de cette France-Afrique qui n'a jamais disparu, malgré des pseudo-discours, on arrête la France-Afrique, tout ça. Macron est bien dans cette lignée-là. Il continue de soutenir ces dictateurs africains que la France aime bien, enfin que le gouvernement français aime bien. Alors pour ce qui est du sida, Macron a annoncé, tel le généreux donateur, une augmentation de 15% de la contribution de la France. Alors on va rappeler quand même un truc, c'est que la France est le deuxième contributeur, hein, avec plus de dans ce fonds, hein, avec les États-Unis. Mais c'est le seul pays du G7 qui n'a pas augmenté sa contribution depuis 9 ans, depuis 2010. Donc c'était un petit rattrapage qui est juste un peu ridicule. Voilà. Par contre, nous n'avons toujours aucune nouvelle de la lutte contre le sida en France. Aucune nouvelle de campagne pour l'utilisation du préservatif. Hein, rien n'est visible, toujours rien contre les comportements à risque. Enfin bref, le gouvernement français, à travers Emmanuel Macron, ne s'occupe pas vraiment de la lutte contre le sida. On est moins, on est moins impacté par le paludisme en France. Ils laissent les assos gérer parce que voilà, ils ont décidé de pas mettre en place de politique de santé publique. Alors pour finir avec la Macronie. C'est la bonne nouvelle du jour et qui nous fera marrer un petit moment. Sylvie Goulard, donc qui était l'ancienne ministre de la Défense, là, qui a tenu quelques semaines le temps de se faire virer parce qu'elle était impliquée dans une affaire de détournement de fonds de l'Union européenne, qui était choisie par Emmanuel Macron, notre monarque, pour devenir commissaire européenne, a été rétoqué, refusé aujourd'hui. Ils l'ont dit, dégage. Voilà, ça nous fait plaisir. Macron a hurlé, il paraît. C'est comme quoi on a les petits bonheurs qu'on peut, hein, bien évidemment. Et puis pour terminer avec la société de vigilance, puisque c'est de ça dont il est question dans les derniers discours de Macron, hein, c'était lors du discours hommage aux flics et aux fonctionnaires tués par Michael Harpon. Il avait dit qu'il fallait rentrer dans une société de vigilance. La vigilance n'est pas toujours bien vue par le gouvernement, puisqu'il y a plusieurs types de vigilance. Quand on est vigilant pour prévenir les autres de certains trucs, ça plaît pas. Et le truc dont je vais vous parler, c'est un groupe à Saint-Étienne qui avait monté une page Facebook pour annoncer où étaient les contrôleurs. Donc effectivement des citoyens vigilants des contrôles et qui informaient leurs concitoyens stéphanois de la présence de l'endroit où il y avait les contrôleurs de la STAS, Société de Transport de l'Agglomération Stéphanoise. Cette vigilance-là est très très mal vue, puisque la Stas a essayé de négocier avec le groupe Facebook, qui ça n'a pas abouti. Ils ont donc déposé plainte contre ces gens-là. Alors, ils ont le droit de déposer plainte, puisque depuis 2016, il y a une loi, une belle loi, bien macroniste ou bien de droite, qui a créé un délit de signalement de contrôleur. Je vous jure, c'est écrit dans la loi. Et vous risquez 2 mois de prison et 3 750 € d'amende, que vous soyez administrateur de la page du site ou de l'appli, comme simple utilisateur. Hein. Vous êtes poursuivable. Donc voilà, c'est cette vigilance, cette délation qui est réclamée par le président de la République ne concerne pas la vigilance ou la délation ou l'information donnée par les citoyens sur les milices privées qui circulent notamment dans les régies de transport en commun des différentes villes. On a les mêmes à Lyon. Voilà pour mon introduction macronienne du jour.
Alors écoute, je vais bouleverser un petit peu l'ordre de nos informations, puisque j'ai plutôt envie de commencer par des personnes qui étaient en lutte aujourd'hui, et dont on ne parle finalement pas beaucoup, ce sont ces fameux...
Pas du tout, tu veux dire?
Ouais, pas du tout. Voilà, je me suis dit que c'était quand même bien de les parler. J'espère qu'un jour, quelqu'un nous a beaucoup parlé de son travail et de la lutte. Donc j'espère que cette personne, un jour, on arrivera à la convaincre de venir et vous parler en direct dans les micros de Radio Canu. Alors, ce sont ces fameux AESH. Mais oui, il faut bien claquer.
Ouais. Ça remplace les AVS, en fait.
Oui. Alors, ce sont des accompagnants d'élèves en situation de handicap, voilà pour l'acronyme. Alors, il y a eu un changement, hein, c'est-à-dire que... d'acronyme. Hein.
Et de statut.
Et tout ça rend évidemment les choses très compliquées. Alors, normalement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'une personne, un accompagnant, une accompagnante, est affectée auprès d'un élève dans un collège, un lycée, une école, et donc va suivre cet élève dans des classes ordinaires, par exemple. Et normalement, tout est fait pour permettre à l'élève d'être bien accueilli et au salarié, à la salariée, de bien travailler pour bien accompagner. Sauf que tout ça n'est évidemment pas si simple, puisque, comme nous, on nous l'avait raconté dès le mois de septembre, un certain nombre de ces travailleurs et travailleuses se sont retrouvés sans contrat de travail.
Ouais.
Ce qui était quand même fou. Alors nous, par exemple, on nous a expliqué que quelqu'un... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de temps partiel subi,
oui,
imposé. Donc, des gens essayaient de compléter le temps partiel subi, qui, évidemment, je vous le donne en mille, est mal payé. Donc, un temps partiel ne permet pas de bien vivre ou même de vivre. Hein. Oui. On est dans la survie. Donc, on va cumuler des temps partiels pour, évidemment, essayer d'avoir quelque chose qui, à la fin, aboutit à un peu un salaire. Un peu.
Hein? Déjà que le salaire de base des AESH et des AVS est vraiment pas élevé du tout.
C'est ça. Donc là, en plus, quand il est coupé en deux, vous avez même pas un 35 heures ou SMIC, mais qu'on vous met du temps partiel, c'est compliqué. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés sans contrat de travail, ou alors avec une partie du temps partiel avec un contrat, puis pas de contrat sur l'autre. Alors il faut bien dire que c'est quand même des gens qui sont en général investis dans cette mission, parce que vous travaillez avec des élèves, des handicapés.
Des élèves en difficulté, oui.
Et que vous avez envie d'être là. Hein, si t'as pas envie d'être là, au bout de 2 mois, de toute façon, tu lâches l'affaire, parce que c'est une situation où il faut être quand même assez volontaire. Mais on te donne jamais les moyens d'être volontaire jusqu'au bout. Il faut bien aussi le savoir. Donc t'as un petit salaire, t'as des temps partiels et t'as pas de contrat de travail et tu commences ton année scolaire. Et alors donc en plus on te demande de cumuler les élèves, hein, puisque avant là où tu pouvais vraiment te mettre à la disposition d'un élève qui en a besoin, ben d'un seul coup tu te retrouves à devoir être éparpillé et à ne plus pouvoir suivre évidemment l'élève complètement et d'être vraiment disponible. Et puis il y a des gens qui se sont retrouvés aussi sur plusieurs établissements à devoir courir un petit peu de partout, c'était quand même assez fou. Alors la lutte aujourd'hui était autour d'une grève, d'un rassemblement devant le rectorat. L'idée aussi c'était de se retrouver à un moment à la bourse du travail. L'idée c'est de sortir de la précarité, de s'unir et d'agir tous ensemble et tout ensemble. Parce qu'il y a un moment, évidemment, on sait bien, les précaires, vous êtes en plus éclatés sur des établissements, c'est difficile de se rencontrer, donc une grève, ça peut permettre justement de se réunir et de s'unir pour lutter tous ensemble. Et puis là, vraiment, cette rentrée se passe extrêmement mal. Alors l'idée, c'est de se revendiquer un certain nombre de points. C'est que le temps de travail soit calculé non pas sur 41 semaines, mais sur 45 semaines, qu'il y a la fin des temps partiels imposés, que il y a un respect des vœux d'affectation, comme les enseignants, finalement, dans la mesure du possible, bien évidemment, on me dirait, mais enfin, que voilà, il y a quelque chose qui soit lié quand même au travail des autres travailleurs et travailleuses dans les établissements, qu'il y ait des plans de formation qui soient mis en place, parce que quand vous discutez avec des gens autour de vous, il y a plein de gens qui sont passés par le fait d'être AVS et qui n'avaient aucune formation de rien, et qui seront retrouvés quand
même.
En
général, ils n'ont aucune formation.
Avec leur bonne volonté à devoir s'occuper de quelqu'un d'autre. On est quand même dans un travail humain.
Oui, et il y a une partie, donc c'est pour aider des élèves en situation de handicap. Alors, le handicap, ça peut être très léger, ça peut être un dyslexique, un dysphasique, mais ça peut aller jusqu'à des cas d'autisme ou des choses encore plus sérieuses. Mettre des personnes non formées sur ce genre de poste, c'est quand même hallucinant, et c'est pourtant le cas quasiment tout le temps. En plus, comme il manque pas mal de VH, d'AESH maintenant, les établissements ou le rectorat prend les gens qui se présentent et on a effectivement des situations un peu compliquées.
Donc voilà, évidemment, c'est aussi d'obtenir une augmentation des salaires, de reconnaître enfin ce travail à sa pleine mesure. Donc l'idée, c'est évidemment de mettre dans la boucle les parents et que tout le monde puisse être solidaire et de faire évoluer le processus, le métier, et de faire avancer un petit peu la situation de l'accompagnant et des élèves.
Voilà, puis voilà. Que le gouvernement, et notamment Blanquer, le ministre, assume un peu, il parle toujours d'école inclusive, on est dans une école inclusive, il faut donner les moyens pour qu'elle soit inclusive, hein, sinon ça ne marche pas vraiment l'inclusion. Poursuis avec le cannabis, puisque le cannabis, c'est la vie. Ah non, c'est pas ça. Donc, il y a un député de La République En Marche qui s'appelle Olivier Véran, qui a l'air moins pire que les autres, puisqu'il a proposé hier, il a annoncé hier qu'il défendrait officiellement, dans le cadre du projet de loi financement de la sécurité sociale, un amendement qui autorise le financement de l'expérimentation pour 2 ans de l'usage médical du cannabis à partir de janvier 2020. Alors, on rappelle que, donc lui, il bosse sur le financement de la sécurité sociale. On rappelle que l'agence du médicament a déjà donné son feu vert en juillet dernier pour une expérimentation de début 2020 et qui va durer 2 ans sur un avec des médecins formés, disent-ils, un suivi scientifique pour mettre en œuvre des médicaments à base de cannabis, avec les différentes substances, essentiellement d'ailleurs souvent du cannabinol, qui est pas la substance psychoactive qu'on connaît, qui est le THC. Ça devrait concerner à peu près 3000 malades, notamment pas mal de personnes qui ont des maladies lourdes, comme des cancers, qui sont actuellement addicts, qui sont drogués aux opiacés. Et l'idée, c'est quand même que le cannabis permet de sortir de l'addiction aux opiacés, qui est une addiction grave, sérieuse, lourde, pour aller vers des produits qui sont largement moins dangereux, moins addictifs, comme l'est le cannabis. Il n'y a pas d'addiction a priori. Donc lui, ce qu'il propose de voter ça dans le cadre du financement de la sécurité sociale. Pour ce député, c'est pour lui être sûr, c'est avoir la garantie que le feu vert donné par l'agence du médicament bascule dans les faits avec une vraie expérimentation et surtout un financement de l'expérimentation. Parce qu'il suffit pas de dire qu'on va faire pendant 2 ans une expérimentation des médicaments à base de cannabis. Si on les finance pas, si la sécurité les rembourse pas, les patients vont être coincés. Hein. En tout cas, une partie des patients vont être coincés. Donc ça va dans le bon sens. Donc l'idée, c'est que ces médicaments soient distribués en pharmacie de ville, en pharmacie hospitalière aussi. Alors il y a différentes formes, il y aura des tisanes, de l'huile, des fleurs séchées de cannabis que les patients ne sont pas censés fumer. Enfin des choses comme ça. Il y aura des possibilités hein, de faire des choses où on vaporise quand même. Enfin il y a plein de choses derrière tout ça. Il faut savoir quand même que la France est un des derniers, voire le dernier pays européen à ne pas avoir autorisé le cannabis thérapeutique. Et même le Premier ministre, Édouard Philippe, avait estimé que c'était quand même absurde de pas mettre en œuvre et de pas étudier l'intérêt du cannabis thérapeutique. Bien évidemment, il avait tout de suite dit c'est pas pour faire du cannabis récréatif, parce que ça, c'est un énorme tabou pour les réactionnaires qui nous gouvernent, mais c'est déjà un premier pas, et un pas qui est très très important pour les patients qui en ont vraiment besoin, et il y en a beaucoup qui en ont vraiment besoin.
Oui, on aurait
J'ai dit du bien d'un député de la République En Marche, ouais. D'autres. Hein.
On aurait pu dire aussi que ça permet, au-delà de certaines pathologies extrêmement lourdes, d'apporter un traitement ou un accompagnement à des traitements à des enfants. C'est-à-dire que là où justement utiliser des produits très mauvais pour la santé, comme tu l'as dit, sur les opiacés, mais qui sont aussi mettre les enfants en difficulté, puis ils ne les soignent pas, enfin, ont des effets secondaires bien plus importants que chez les adultes. Ça permet d'amener une alternative justement à tous ces produits, et donc là il y a une ouverture au niveau du soin qui est extrêmement importante, et on a toujours l'impression que ça ne concerne que les adultes, mais pas du tout, puisque comme tu le disais, ce n'est pas la même molécule que le fait THC. De la fumette.
Oui. Voilà. Et il y a quand même un espoir aussi qu'ensuite il y ait un vrai développement et qu'on puisse remplacer notamment certains somnifères, parce que il y a plein de projets, il y a plein de solutions qui existent à partir des substances tirées du cannabis qui ont un vrai impact thérapeutique positif.
Alors, je vais revenir à des salariés qui l'ont mauvaise.
Ah bon ?
On va parler de Michelin. Je crois que les syndicats sont a priori assez unanimes pour dire que ça ne va pas le faire. Alors, il n'y a pas très longtemps, on avait appris que, c'était deux semaines, que d'ici 2021, c'est une usine de Bamberg, c'est dans l'Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, elle est fermée. 858 salariés sont concernés. Et puis, bah, là, on a appris aujourd'hui, c'était ce matin, que Michelin va fermer une usine, son usine de La Roche-sur-Yon d'ici 2020. Je cite, d'ici 2020.
Donc ça concerne quand même plusieurs centaines de salariés, non ?
619 précisément.
Voilà, ils font la gueule.
Ah bah oui, parce que ça fait partie de ces entreprises pour lesquelles les salariés se sont beaucoup investis, ont donné de l'effort.
On fait des sacrifices, ouais.
Quelques sacrifices, comme ça, en passant, l'air de rien. Et puis, d'un seul coup, on leur dit que, ben, pif, paf, pouf, tout ça, c'est fini. Alors, on rappelle, Michelin, en plus, c'est un peu aussi une image d'entreprise à la française, avec le côté paternaliste, hein, sur le patronat, où on accompagnait les ouvriers.
Ouais, c'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps. Mais il y a eu une tradition comme ça qui fait que, pendant très longtemps, les politiques soutenaient les Michelin, en tout cas le patronat, hein, évidemment, comme étant un modèle économique. Et tout ça et tout ça. Bon, Michelin, a priori, n'a pas su mettre en place une stratégie. C'est ce que dénoncent les syndicats et les syndicalistes aujourd'hui. C'est que Michelin dit au niveau de sa direction, oui, mais on a une concurrence, en particulier chinoise, on ne sait pas y faire face. Là, ce que répondent les syndicalistes, c'est que, bah, en même temps, il aurait fallu entretenir les modes de production pour avoir une possibilité d'être réactif. Et donc de pouvoir faire de la concurrence à ces produits chinois qui, paraît-il, envahissent la France. C'est ce que disent, hein, au niveau de la direction au niveau de la direction de Michelin, c'est ce qu'on dit, ça envahit du coup les marchés, et que le produit asiatique étouffe les produits français. Mais en même temps, du côté des syndicalistes, on rappelle qu'il n'y a rien qui a été fait depuis 10 ans pour mettre en avant cette production, pour la valoriser, et puis surtout pour savoir un petit peu évoluer sur les chaînes de production, sans forcément mettre les gens dehors. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'entretient pas les machines, on n'entretient pas les usines, on ne les développe pas. Et ben, du coup, à un moment, forcément, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On les ferme, hein, parce que c'est tellement plus pratique. Alors, du côté de Michelin et de sa direction, il est pour l'instant précisé qu'il va y avoir une négociation, bien évidemment, et que normalement, avec des mesures de pré-retraite, hein, déjà comme ça, hop, vous allez tous pouvoir partir en pré-retraite, ça va être hyper classe, vous allez voir, surtout avec les nouvelles, les nouveaux dispositifs, mais surtout qu'on va permettre une mobilité interne et externe. Alors, interne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de vous reclasser chez Michelin.
Ouais, ailleurs en France, voire plus loin.
On ne sait pas bien où. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Et alors, externe, c'est parce qu'en fait, il paraît que du côté de La Roche-sur-Yon, il y a quand même un bel emploi. C'est-à-dire qu'il y a un chômage qui est moins important que dans notre région. Et que donc, en fait, globalement, Michelin espère pouvoir vous recaser assez facilement dans une autre entreprise. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, Michelin, c'est une vieille entreprise à la française et qu'il y a des salaires
avantages
et des avantages sociaux qui ont été obtenus.
Par la lutte.
Bien évidemment. Mais que les salariés ne retrouveront pas en étant dans d'autres entreprises, peut-être plus récentes, ou en tout cas où il n'y a pas eu petite, où il n'y a pas eu une lutte qui a permis, décennie après décennie, d'obtenir un certain nombre d'appuis. Je suis toujours emmerdée de parler davantage, parce que c'est des gens qui ont obtenu une réalité. Il y a un moment, il y a des bénéfices, on obtient des choses, point.
Bah, c'est des avantages par rapport à ceux qui n'ont rien.
Et bien évidemment, mais parce qu'en fait, même en termes de fiscalité, tout ça, on va vous dire que c'est des avantages. Hein, mais bon, en vrai, voilà, on obtient des choses aussi, parce qu'à un moment, il y a une lutte et tout ça ne se retrouvera pas ailleurs. Alors au niveau des élus, au niveau de la Vendée, tout ça, ça se mobilise. Parce que comme je vous le disais, Michelin, c'est quand même aussi une figure. Donc on va bientôt avoir des élections municipales, locales. Donc il faut aussi faire bonne mesure, essayer d'accompagner ces salariés qui vont se retrouver à la rue quand même, hein, en 2020. Bon, voilà, mais je sais pas bien. Pour l'instant, évidemment, on attend de savoir ce qui va se passé, mais même certains élus parlent de décisions inadmissibles, tout ça. Bon, on pense que derrière, il y a quand même une recherche de l'électorat. Autre chose dans le capitalisme qui n'a absolument rien à voir, mais qui nous concerne, nous, quand même, les salariés, puisque vous faites partie des 4 millions de salariés qui profitent d'un titre restaurant. un avantage aussi. Je vous rappelle qu'il permet aussi certains avantages fiscaux dans les entreprises. Je vous rappelle aussi que quand vous parlez de ticket restaurant, il s'agit bien d'une marque. C'est comme le scotch. Donc on parle de titre restaurant et c'est le Figaro Echo qui a sorti l'affaire. Il semblerait que l'autorité de la concurrence ait soulevé une histoire de cartel entre les principaux émetteurs, les principales entreprises qui distribue ces titres restaurants. Alors on a le fameux ticket restaurant qui est rentré dans le langage courant, qui est détenu par Underwood, je le dis à l'anglaise exprès. Chaque restaurant Sodexo, très connu, les chèques de table, c'est Natixis Intertitres, et le chèque déjeuner, hop. Donc ces quatre-là se seraient entendus. Il va donc y avoir plus de révélations. Pour l'instant, a priori, l'autorité de la concurrence a été contactée dès la sortie du papier du Figaro par un peu tout le monde à la tribune et se refuse pour l'instant à tout commentaire. Alors évidemment, quand il y a cartel, il y a entente, et l'idée, évidemment, c'est de se faire du pognon.
Bah oui.
Sur le dos.
C'est d'empêcher qu'il y ait de la concurrence et que les prix baissent, quoi.
Et voilà. Et donc là, évidemment, c'était de se mettre d'accord sur les stratégies commerciales des uns et des autres et de verrouiller le marché. Alors, il pourrait y avoir une amende assez énorme. 6 milliards d'euros. Ils sont quatre, quand même, dans la balance.
À se partager l'amende. Ouais, c'est les risques.
Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a balancé. Tu sais, il y a
toujours quelqu'un. Et quand on balance, on est exempté d'amende.
Ou en tout cas, on paie moins cher. Ouais. Voilà. Donc, on attend maintenant, évidemment, les révélations de l'autorité de la concurrence pour savoir à quel point cette entente a duré. Ça aurait duré entre octobre 2002 à fin 2015. Donc, c'est-à-dire quand même une décennie, pratiquement. Non, pas tout à fait. Si, un peu plus, même. Voilà, mais bon... L'idée, c'est quand même de savoir à quel point les salariés et puis les entreprises, parce que ça concerne le patronat, se sont fait avoir par quatre entreprises qui se sont a priori bien mis d'accord pour verrouiller la concurrence et puis aussi se mettre d'accord certainement sur les stratégies commerciales et donc des tarifs.
On va parler un peu de nucléaire maintenant, parce que vous avez tous entendu la nouvelle d'hier, EDF a annoncé par un communiqué que les travaux sur les soudures défectueuses allaient occasionner un nouveau surcoût de 1,5 milliard d'euros pour ce magnifique EPR, réacteur de nouvelle génération, soi-disant, de Flamanville dans la Manche, qui était censé être connecté au réseau en 2012 et qui devrait être connecté en 2023, si tout va bien. Donc, au départ, il devait coûter 3,5 milliards d'euros, tel qu'il était vendu par Areva à l'époque. Aujourd'hui, on a 12,4 milliards d'euros. Donc, soit ils y connaissent rien, ils sont incompétents, parce que quand on voit un produit qui, à la fin, il coûte 3 fois plus cher ou 4 fois plus cher, c'est soit de l'incompétence, soit de l'escroquerie. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est. Ils seront pas poursuivis pour avoir fait ce faux truc, puisque ils marchent main dans la main. On rappelle que Orano, qui est la suite, appartient maintenant à EDF, puisque l'État leur a imposé, en leur donnant 5 milliards quand même, mais parce que ça allait pas bien, il paraît, dans le nucléaire, et que l'État continue de soutenir le nucléaire. Donc on rappelle le problème des défauts de soudure sur une 60aine de soudures qui ont été repérées. Donc, pendant plusieurs mois, au début de cette année, la EDF a essayé de convaincre l'autorité de sûreté nucléaire que on pouvait quand même fonctionner avec ces soudures non conformes. L'autorité de sûreté nucléaire a refusé et a dit non, il faut absolument refaire. Donc, pour l'instant, ça coûte 1,5 milliard d'euros. EDF a prévu comme scénario d'introduire un robot qui ferait les soudures à distance. L'idée, c'est qu'ils veulent pas casser le béton qui entoure les tuyaux pour faire rentrer quelqu'un dedans, des gens dedans. Donc, ils vont avec un robot. Si l'autorité de sûreté nucléaire ne valide pas cette méthode, ça coûtera encore un petit peu plus cher, 400 millions d'euros en plus. Voilà. Alors, c'est pas la première fois. On rappelle qu'il y a eu des problèmes de soudure sur les générateurs de vapeur. Je crois qu'il y en avait quatre qui déconnaient. Toujours sur ce chantier de l'EPR. On a eu les fameuses anomalies sur l'acier du fond de la cuve et du couvercle de la cuve. D'ailleurs, quand ils vont mettre en route, ils doivent changer le couvercle de la cuve, qui est une cocotte minute, on le rappelle, en 2024. C'est-à-dire que quand ils vont arriver à démarrer le réacteur en 2023, un an ou deux ans plus tard, ils seront obligés de l'arrêter et changer le couvercle de la cocotte minute nucléaire. C'est la classe quand même, le nucléaire aujourd'hui. Donc voilà, ça repousse. Ces surcoûts, ça existe ailleurs. Hein. On a le Hinkley Point aux États-Unis là qui a eu un surcoût de 3,3 milliards. Pour l'instant, dans les EPR en construction, il y en a que deux qui ont démarré en Chine. Les autres, c'est la Xianli ou c'est la catastrophe. Vous utilisez le terme que vous voulez. En tout cas, qui c'est qui va payer? Eh ben, c'est ceux qui sont encore, qui n'ont pas réfléchi, qui sont restés chez EDF. Donc, c'est le moment de changer et d'aller vers de l'électricité de meilleure qualité. En tout cas en termes de production, comme l'a fait Radio Canu il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, puisque Radio Canu est chez Enercoop, pour pas les citer, une coopérative, ce qui en plus est un poil plus intéressant qu'une société capitaliste dont une partie des fonds sont cotés en bourse, le reste appartient à un état nucléophile. Voilà. Alors sur les incidents nucléaires, on a eu un rapport annuel sur 2018 qui est sorti par l'autorité de sûreté nucléaire. On va regarder deux centrales, hein, Civaux et Blayais. Blayais, tristement célèbre, parce qu'elle a failli péter lors de la tempête de 99. Civaux, ils ont fait 21 contrôles sur l'année, 5 incidents de niveau 1. Alors, les incidents, ça va de niveau 0 à niveau 7. Niveau 0, il n'y a aucun impact sur le nucléaire. Et puis niveau 1, il y a un petit impact jusqu'à 7 qui s'appelle Tchernobyl, grosso modo. Donc voilà, ils ont trouvé des bouts de chiffon coincés dans des pompes. Enfin, on se demande qui c'est qui va bosser sur ces chantiers. Donc voilà, sur au Blayais, alors un truc plus grave, ils ont trouvé du tritium radioactif sous la centrale, dans la nappe d'eau sous la centrale. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite. Alors que, bon, déjà il y a le plancher qui est fissuré de la centrale en béton, un truc qui est bien épais mais qui est fissuré. Et puis surtout ils se disent mais ça vient d'où ce tritium radioactif? Donc ils ont une fuite dans le cœur de la centrale, mais ils savent pas où. C'est pas mal quand même le nucléaire. On sent que la technologie est maîtrisée. Donc voilà, le compte rendu là de l'autorité de sûreté nucléaire est plutôt positif sur cet été notamment parce que il parle aussi de cet été avec la canicule. Peu de réacteurs ont été arrêtés à cause de la canicule, quelques-uns quand même. Donc voilà. Et puis pour rester dans le nucléaire, un petit mot sur Tchernobyl parce que le Tchernobyl c'est le high level en ce moment de l'imbécilité touristique. Puisque la salle du cœur, la salle de contrôle du réacteur, enfin de la centrale, pas du, il y a, on rappelle, il y avait plusieurs réacteurs, de la centrale, est ouverte au tourisme. Alors si vous avez vu la série, vous savez à quoi ça ressemble, le truc, enfin c'est une reconstitution. C'est super radioactif, donc il faut y aller avec des tenues, porter un casque, un masque et des tenues spéciales. Et après, on vous fait vérifier si vous n'avez pas été contaminé et tout. C'est n'importe quoi. Mais il faut dire quand même que le président Volodymyr Zelensky a signé un décret désignant Tchernobyl comme une attraction touristique officielle. Donc effectivement, ces imbéciles qui vont faire du tourisme nucléaire se développent. Ils en attendent 100 000 en 2019, 72 000 c'était en 2018 et 50 000 en 2017. Alors la série, l'excellente mini-série de Tchernobyl est en petite partie responsable de l'augmentation de quelques centaines cette année, mais la progression elle datait de bien avant. Voilà, c'est l'imbécilité, on fait péter un truc n'importe comment et aujourd'hui on attire les touristes. Ça fait quand même un petit peu peur tout ça.
Oui, juste avant que tu passes aux Kurdes, qui est quand même une information internationale importante de cette semaine, juste pour vous donner une précision que j'ai pas donnée, mais c'est une grosse erreur, donc je vais la rattraper tout de suite. C'est, je vous disais que je ne savais pas sur ce trust des titres restaurants s'il y avait une entreprise parmi les quatre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait balancé les autres. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est une cinquième entreprise qui a saisi l'autorité de la concurrence. Il s'agit de Resto Flash, qui est un nouveau sur le marché, donc le nouveau. C'est bien l'idée, c'est de faire péter les autres pour prendre une place. C'est pas juste pour la paix dans le monde. Hein.
Oui, alors rapidement sur les Kurdes, hein, vous avez entendu l'assaut lancé par la Turquie hier sur une région syrienne dans laquelle il y a la résistance kurde historiquement installée hein, depuis la guerre en Syrie, notamment le Rojava. Là, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de choses autour de cette région autonome avec une autogestion, un système laïque, enfin des trucs assez incroyables dans cette région. Donc on a tous compris, hein, Donald Trump a fait un tweet qui a donné voilà, l'autorisation à la Turquie d'attaquer. Ça fait très longtemps qu'ils le font, donc ils ont attaqué hier. Ils visent les unités de protection du peuple. On en est là. Les infos d'aujourd'hui, c'est que la Turquie, et notamment le ministre de la Défense, a affirmé que l'opération lancée dans la nuit, hier soir et hier après-midi, avait été un succès, aussi bien dans les airs qu'au sol. Ils ont fait plein de choses. Sauf que les Kurdes disent pas tout à fait la même chose, ils disent qu'ils sont quand même arrivés à bloquer pas mal de choses pour l'instant, bien évidemment, même si il y a une prison a priori qui a été libérée avec potentiellement des militants islamistes. On rappelle que la Turquie, de toute façon, a déjà accueilli pas mal de militants islamistes et les a protégés ces gens de Daesh. Donc là, la Turquie est toujours dans cette voie-là. Et finalement, elle protège Daesh et elle attaque les Kurdes qui sont ses ennemis héréditaires. Elle rêve d'un nouveau génocide, hein, la Turquie, on en a bien conscience, en tout cas le gouvernement turc. Donc pour l'instant, c'est pas aussi bien. Ce qu'on notera, c'est que pas mal de nations occidentales, dont la France, ils sont allés de leur c'est pas bien, tout ça. Il y a une réunion à l'ONU aujourd'hui, enfin en fin d'après-midi là, qui devrait avoir lieu, on n'a pas eu la réponse. Sauf que tout le monde a les moyens de faire des représailles, quasiment. La France a les moyens, l'Allemagne a les moyens, alors l'Allemagne c'est plus compliqué, mais l'OTAN a les moyens, personne ne le fait. La Turquie elle tient tout le monde, comme ça, dans ses serres, et personne n'a le courage de dire quoi que ce soit à Erdogan. Et Erdogan il est tellement fort qu'il y est allé hier avec une phrase énorme que je vais vous dire, il a dit « Oh Union Européenne, reprenez-vous. Je le dis encore une fois, si vous essayez de présenter notre opération comme une invasion, nous ouvrirons les portes et nous enverrons 3,6 millions de migrants. » Voilà, il fait du chantage et effectivement l'Europe subit ce chantage et il répond alors qu'il y a les moyens de botter la Turquie hors de Syrie. Ce qu'on rappelle, c'est quand même une invasion, hein. Le territoire il est syrien, c'est des Kurdes qui y habitent et la Turquie n'a rien à y faire. Voilà, Macron comme les autres est complice, n'a aucun courage et c'est tout ça très très triste. Il y a une manifestation samedi à Lyon le 12 octobre, un rassemblement très exactement. Place Bellecour à 16h pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le soutien de Macron à la Turquie, hein, puisque c'est de ça dont il est question. On condamne officiellement, mais on ne fait rien pour aller plus loin que la condamnation, ce qui revient finalement à un soutien. Voilà, continuer de looter les pauvres Kurdes, c'est quand même mal parti, vu que tout le monde, et quand même tout le monde les a lâchés alors qu'ils ont été super utiles dans la lutte contre Daesh.
Ouais, et puis aujourd'hui, pourquoi l'État français réagit aussi de c'est pas bien? Parce qu'il faut rappeler que dans les geôles kurdes, il y a des Français, et que ils sont assez nombreux, et que si jamais les Kurdes décident de...
Bah, ils n'auront pas le choix de tout lâcher.
De tout lâcher. L'État français craint que ces prisonniers détenus aujourd'hui dans les geôles kurdes ne puissent s'évaporer dans la nature, voilà. Et donc peut-être provoquer évidemment des désastres ailleurs. C'est l'hypocrisie assez totale aujourd'hui des États européens de ne rien vouloir faire sur place, de ne pas vouloir aider et en même temps d'avoir un peu la trouille quand même de ce qui pourrait se passer par la suite.
Voilà. Et on peut le dire, la France et d'autres pays ont les moyens d'empêcher les avions turcs de voler en fait à cet endroit-là, parce que c'est pas leur pays, on le fait pas, donc il y a un vrai laisser-aller. Alors, je suis pas pour la guerre, hein, mais là quand même, ça sera important d'empêcher la Turquie de faire cette guerre. Bon voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, il nous reste 5 minutes.
Je crois qu'on peut...
Tu voulais parler de quoi?
Ça va être trop court. Non, ça va être un petit peu court. Par contre, on peut dire que demain, il y a un pot de rentrée à la Griffe. Je vous rappelle que c'est une librairie, que c'est dans le 7e arrondissement. C'est donc l'occasion de traîner entre des livres tout en buvant une petite boisson. Que demande le peuple, hein? Alors plein de choses, hein, les libertés, des meilleurs salaires, la fin du patronat...
La fin du capitalisme, tout ça.
La fin de l'homophobie, du sexisme, ouais. Et tout ça, bien sûr, on en plein d'autres
choses. La librairie La Griffe, qui est une librairie libertaire, c'est l'occasion de parler de ça. Hein.
Et en tout cas, de repartir peut-être aussi avec quelques ouvrages qui pourront vous accompagner, et puis juste prendre du plaisir, parce qu'il n'y a pas que des ouvrages sérieux, il y a aussi de la BD, il y a plein de choses à La Griffe, puis c'est un chouette petit endroit qui est toujours à soutenir, et qui tous les ans propose un petit pot de rentrée. C'est donc demain, vendredi, à partir de 18h.
Rue Sébastien Griffe. Et je voulais juste dire un petit mot de soutien au Troxon. On soutient un bar qui a cramé l'année dernière.
Ça leur arrive, les accidents et quoi.
Voilà. Et voilà, c'est un bar qui fait des concerts sympas. Et là, ils ont pris. ça a cramé. Voilà. Et il te reste 4 minutes. Tu veux faire un petit truc ou...
Non, je pense que.
L'émission est un petit peu raccourcie pour une raison compliquée.
Je peux juste faire une petite série conso. Ça va être très rapide. Vous faites partie peut-être des malheureux qui, depuis le début de cette rentrée, depuis septembre, hein, donc cette rentrée scolaire, avait quelques soucis avec votre abonnement TCL et vos cartes. Moi, je vais vous conseiller et je vais vous donner les conseils qu'on m'a donné en agence quand j'ai discuté avec des agents des TCL qui n'en peuvent plus, les pauvres, et qui ont l'air de détester une autre corporation. Alors, c'est pas unanime, mais j'ai l'impression que quand même c'est porté par certains et certaines. N'hésitez pas à venir témoigner dans cette émission. Les contrôleurs n'aident pas beaucoup, a priori, les autres corporations des agences TCL, hein, du Citral d'une manière générale. Donc, ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous prendre 5 euros d'amende parce que vous n'avez pas validé votre carte, carte qui ne marche pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez des distributeurs qui dysfonctionnent, des recharges quand vous avez acheté sur Internet qui dysfonctionnent et des cartes qui dysfonctionnent. Tout ça parce que le réseau est très très mal entretenu et donc on va vous donner une amende. L'amende, ne la payez pas, c'est 5 euros, puisque vous allez la contester. Si vous la payez, vous n'êtes pas prêt de récupérer vos 5 euros. Donc, par contre, il ne faut pas oublier de la contester, parce que sinon, après, c'est, ça augmente et vous êtes vraiment dans le caca.
Alors, ils font payer une amende alors que c'est eux qui sont en tort parce que leur matériel ne marche pas. Les contrôleurs TCL sont particulièrement méprisants envers les usagers. D'ailleurs, ils appellent ça des clients maintenant, mais même envers les clients, ils sont ultra méprisants. Ils font payer des amendes à des gens qui sont en règle, mais qui ne peuvent pas valider parce que le matériel de leur entreprise ne fonctionne pas.
Alors il y a des grèves, mais qui évidemment on ne parle pas parce que ça ne touche pas le réseau. C'est-à-dire que vous pouvez quand même circuler, c'est-à-dire il y a les agents qui ne sont pas conducteurs, conductrices de bus, de tram ou de métro, qui ne sont pas contrôleurs, qui donc ne vous gênent pas comme ça au quotidien, vous en rendez pas compte et ça intéresse personne ces grèves-là. Bien évidemment elles sont pas médiatisées et pourtant aujourd'hui il y a des vraies galères, il y a des gens qui se battent parce que en fait le réseau est mal entretenu. Et puis d'ailleurs vous avez vu, il y a des problèmes tout le temps, c'est assez agaçant. Mais voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on paye quand même très cher les abonnements qui sont peut-être en partie payés par votre employeur. Pour autant, en avoir un service qui n'est pas vraiment rendu en tant qu'usager, parce que moi, je ne me considère pas comme cliente, mais bien comme utilisatrice d'un système qui, en fait, devrait être gratuit.
Public
et complètement libéré et libre, afin de laisser à tout le monde la possibilité de circuler, quel que soit notre argent en poche, notre condition de travail ou pas. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, le patronat se réveillera et arrêtera aussi de donner des sous pour rien au TCL. Enfin, je ne sais pas. Hein, moi,
ils n'ont pas le choix, c'est une loi.
Ouais, c'est une loi, mais tant mieux, parce que ça nous évite de sortir 64 balles. Pardon. Voilà. Donc juste pour dire, battons-nous pour des transports gratuits.
Voilà, c'est la fin de ce Canu Info qui est un peu raccourci. On reviendra la semaine prochaine pour une émission entière d'une heure avec plein d'infos. Bye bye, bonne soirée. D'ici 20 minutes, une nouvelle émission sur l'antenne de Radio Canu.
Qui s'appelle Footrack.
Voilà,
c'est ciao.
Bye bye. Si